إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc l'étude de l'épître intitulée « Leçon importante pour toute la communauté » de son auteur l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui à la 13e leçon dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé les piliers des ablutions. Donc tout d'abord, il faut savoir que les piliers des ablutions, cela désigne tout ce qui fait partie intégrante des ablutions et sans quoi les ablutions ne peuvent pas être valides. C'est-à-dire que ces choses que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées, il est indispensable que tu les accomplisses pour que tes ablutions soient valides. Il dit rahimahullah, les piliers des ablutions sont au nombre de 6. Et ces piliers, ils ont été mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Et ce au verset 6 de Surat al-Ma'ida, qui est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et rendu obligatoire les ablutions pour la prière. Il a donc clarifié dans ce verset subhanahu wa ta'ala les membres que nous devons laver pour nous purifier. Et puis ceci a été détaillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, et ce, comme on le retrouve dans différents hadiths. Il dit donc subhanahu wa ta'ala dans le verset 6 de surat al-Ma'ida, « Ya ayyuha alladhina amanu, ida kumtum ila salah, farsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » Et on va revenir sur chacun des passages de ce verset à travers l'explication de ces piliers, Inch'Allah ta'ala. Il a donc dit, rahimahullah, premièrement, se laver le visage et se rincer la bouche et le nez. Le lavage du visage est donc le premier pilier des ablutions. Et ce car c'est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans ce verset. Farsilu wujuhakum. Alors lavez vos visages. Et le visage, il a été délimité dans sa hauteur de la limite habituelle du cuir chevelu, c'est-à-dire la racine des cheveux, à partir de l'endroit où il commence à pousser en haut du front. Et il va jusqu'en bas du menton. Et dans sa largeur, d'une oreille à une autre. Sans que l'oreille ne soit incluse, car comme on va le voir, les oreilles, elles font partie de la tête et non du visage. Il est donc obligatoire de laver entièrement le visage lorsque tu fais tes ablutions. Et ceci est le premier pilier, comme on a dit, car c'est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Quant au lavage des mains avant les ablutions, alors ceci ne fait pas partie des piliers ni des obligations des ablutions. Mais cela est simplement recommandé. C'est-à-dire qu'il fait partie de la sunna. Lorsque tu vas pour accomplir tes ablutions, de commencer par te laver les mains, et ce de manière absolue, à l'exception de celui qui se réveille du sommeil de la nuit. Alors certains savants ont dit qu'il est obligatoire pour lui de se laver 3 fois les mains avant les ablutions, et qu'il est interdit qu'il mette ses mains dans le récipient avant de s'être lavé les mains 3 reprises. Et certains savants ont dit qu'il n'y a pas de différence à ce sujet entre le sommeil du jour et le sommeil de la nuit, et ce car la raison est la même. Comme il est venu dans le hadith, c'est que la personne ne sait pas où ses mains ont dormi. C'est-à-dire qu'il est probable qu'il se trouve sur elle une impureté. Il est donc demandé aux musulmans, lorsqu'ils se réveillent, avant de tremper ses mains dans le récipient, de commencer par se laver les mains 3 reprises. On a donc dit que le premier pilier est de laver le visage. Et ce qui est obligatoire, c'est de le laver une seule fois. Et il est recommandé de le laver 3 reprises. Et ce comme il est venu dans le hadith authentique de Humran, qui nous a décrit les ablutions de Uthman, radiallahu ta'ala anhu, qui lui-même a fait les ablutions en décrivant les ablutions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit donc qu'il a lavé son visage 3 reprises. Et ceci nous prouve que cela est recommandé. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, et se rincer la bouche et le nez. Et ce car la bouche et le nez, ils font partie du visage. Donc, al-mamala, qui est le rinçage de la bouche, il consiste à faire rentrer de l'eau dans ta bouche et la remuer. C'est cela qui est légiféré. Et ce car il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela lors de ses ablutions. Quant au rinçage du nez, que l'on appelle en arabe al-istinshaq. Il consiste à aspirer de l'eau avec ton nez, puis de la refaire sortir en soufflant. Et ce car il nous est rapporté, dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, il mettait de l'eau dans son nez, puis la faisait ressortir en soufflant. Donc l'eau que tu aspires, tu la prends avec ta main droite. Et pour la faire ressortir lorsque tu souffles, tu fais cela avec ta main gauche, comme cela est venu dans la sunna. Et également, il fait partie de la sunna à ce sujet, que tu fasses le rinçage de la bouche et le rinçage du nez avec une seule et même poignée d'eau. C'est-à-dire que tu puises l'eau une seule fois avec ta main, et avec l'eau qu'il y a dans ta main, tu rinces ta bouche, puis tu rinces ton nez. Car c'est cela qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la description de ses ablutions. Et cela est recommandé. Également, il est recommandé, lors du rinçage de la bouche et du nez, d'insister sur cela, c'est-à-dire de bien se rincer le nez et la bouche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, « Insiste lors du rinçage de la bouche et du nez, sauf si tu es en état de jeûne. » C'est-à-dire que de manière générale, il est recommandé d'insister sur le rinçage de la bouche et du nez, sauf pour celui qui jeûne. Car celui qui jeûne, s'il insiste sur cela, il risque alors d'avaler de l'eau. C'est pour cela qu'il est détestable pour lui d'insister sur cela. Reste une question concernant le lavage du visage, qui est la question de la barbe. Nombre de personnes s'interrogent comment faire concernant le lavage de la barbe lorsque je me lave le visage. Les gens de science ont mentionné que si la barbe est abondante, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la peau à travers la barbe, alors dans ce cas-là, il suffit de passer de l'eau et ce en essuyant ses mains dessus. Et le mieux est de frictionner sa barbe, de la frotter en faisant pénétrer l'eau à l'intérieur avec ses doigts mouillés. C'est-à-dire que tu passes tes doigts mouillés à l'intérieur de ta barbe. Et ceci est recommandé mais n'est pas obligatoire. Et c'est ainsi que faisait parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui dont la barbe n'est pas abondante, c'est-à-dire qu'elle ne recouvre pas sa peau, mais on voit sa peau à travers sa barbe. Alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui de frictionner sa barbe, de la frotter jusqu'à ce que l'eau atteigne la peau. Et c'est ainsi qu'il convient de faire, comme le mentionnaient les gens de science, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, deuxièmement, se laver les mains jusqu'au coude. Et ce, car c'est la deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le verset. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire, et lavez vos mains jusqu'au coude. Et ceci est donc le deuxième pilier des ablutions. Et ce lavage, il est indispensable. C'est-à-dire que celui qui pense que le premier lavage des mains suffit, et qui lorsqu'il arrive à ce pilier, il ne se lave qu'à partir des poignets, alors ses ablutions ne sont pas valides. Car il est obligatoire de te laver les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire des extrémités des doigts jusqu'au coude inclus. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le verset. Et ceci est obligatoire une fois. Et la sunna est de le faire trois fois, comme cela nous est rapporté également dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, toujours d'après Humran, qui nous décrit les ablutions de Uthman, qui lui-même décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, puis il lava sa main droite jusqu'au coude, à trois reprises, puis la main gauche autant de fois. Il est donc également recommandé de commencer par la droite avant la gauche, et ceci fait partie des sunan lors des ablutions. Le cheikh rahimahullah ta'ala dit ensuite, troisièmement, passer ses mains mouillées sur toute sa tête ainsi que sur ses oreilles. Et ce car c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le verset lorsqu'il dit وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, et passez les mains mouillées sur vos têtes. Ceci est donc le troisième pilier des ablutions. Et cet effleurement, il a lieu de la manière que nous a décrit Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu lorsqu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effleurait sa tête avec ses deux mains mouillées, en commençant par le début de sa tête, c'est-à-dire le début du cuir chevelu, et en allant jusqu'à sa nuque, puis en les faisant revenir. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc comme l'a dit l'auteur, rahimahumallahu ta'ala, il est indispensable de passer ses mains mouillées sur toute sa tête. Et il ne suffit pas d'effleurer seulement une partie de la tête. Mais tu poses tes deux mains, puis tu pars du début de la tête, du début du cuir chevelu, en descendant jusqu'à la nuque, et ensuite tu ramènes tes mains jusqu'à l'endroit où tu as commencé. Et ceci est suffisant, car il est suffisant d'un seul effleurement en ce qui concerne la tête. Il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait cela plus d'une fois lors des ablutions. Et le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « ainsi que sur ses oreilles ». C'est-à-dire qu'il faut également passer tes mains mouillées sur tes oreilles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique « les deux oreilles font partie de la tête ». Et il n'est pas légiféré, il n'est pas demandé que tu prennes une nouvelle eau pour essuyer tes oreilles. Mais il te suffit de le faire avec l'humidité qui reste sur tes mains après les avoir passées sur ta tête. Et la manière d'effleurer ses oreilles est d'entrer ton index à l'intérieur de l'oreille en suivant leur conduit. Tu essuies donc avec tes index l'intérieur de tes oreilles et avec ton pouce, tu essuies le derrière de tes oreilles. Et tu fais cela une fois. Et il est important de savoir que ce qui est demandé concernant les oreilles, ce n'est pas de les laver, mais simplement de passer ses deux doigts mouillés, comme vous venez de l'entendre. Car il y a certaines personnes qui pensent qu'il est indispensable que l'eau passe sur toute l'oreille. Ils insistent alors, ils reprennent de l'eau et ils lavent leurs oreilles. Et ceci n'est pas légiféré et n'est pas demandé lorsque tu fais tes ablutions. Il suffit simplement d'entrer ton index à l'intérieur de ton oreille, de suivre le conduit de l'oreille, et avec ton pouce, tu essuies le derrière de tes oreilles. Enfin, parmi les points importants à mentionner concernant le fait de passer les mains mouillées sur la tête, il y a le fait que ce n'est pas une condition que l'eau atteigne la peau du crâne. Car c'est juste un effleurement qui est légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala nous a simplement ordonné de passer les mains mouillées sur la tête et non pas de laver nos têtes lors des ablutions. Donc ce n'est pas une condition que l'eau atteigne la peau. Ensuite, il dit rahimahullah, quatrièmement, se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le verset « وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Ceci est donc le quatrième pilier. Et les chevilles doivent être incluses dans le lavage. De la même manière que les talons doivent être inclus. C'est-à-dire que tu dois laver entièrement tes pieds. Et ce qui est demandé, ce qui est obligatoire pour que tes ablutions soient valides, c'est que tu laves tes pieds une seule fois. Et il est recommandé de les laver à trois reprises. Comme cela nous est décrit concernant les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le même hadith, le hadith de Humran, qui nous décrit les ablutions de Uthman, qui nous décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, puis il lava son pied droit jusqu'à la cheville à trois reprises, puis le pied gauche autant de fois. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. On voit donc qu'il est également légiféré pour les pieds de commencer par laver le pied droit. Et ce avant le pied gauche. Car c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu laves tes pieds, il faut également bien faire passer de l'eau entre les orteils. Et la sunna est de faire passer ton auriculaire gauche entre tes orteils. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala, cinquièmement, faire cela dans l'ordre mentionné. C'est-à-dire que pour que tes ablutions soient valides, il faut que tu fasses ce que l'on vient de mentionner dans l'ordre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans le verset. C'est-à-dire que tu commences par laver ton visage en te rinçant la bouche et le nez. Tu laves tes mains jusqu'au coude. Tu passes tes mains mouillées sur ta tête ainsi que sur tes oreilles. Puis tu te laves les pieds jusqu'aux chevilles. C'est dans cet ordre-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné les ablutions dans ce noble livre. Et c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il accomplissait ses ablutions dans cet ordre. Il est donc attendu du musulman qu'il accomplisse ses ablutions dans l'ordre qui lui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et de la manière dont l'accomplissait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une personne fait ses ablutions en lavant par exemple ses pieds avant ses mains, alors nous dirons que ses ablutions ne sont pas valides, car il n'a pas à respecter ce pilier qui est de faire les ablutions dans l'ordre qui nous a été ordonné. Enfin, il dit rahimahullah, sixièmement, faire cela sans interruption. C'est-à-dire que lorsque tu commences à faire tes ablutions, tu ne dois pas t'arrêter. Et ce qui est visé par l'interruption qui ne doit pas avoir lieu, c'est de ne pas retarder le lavage d'un membre au point que le précédent est séché. Par exemple, tu laves ton visage, puis ensuite, tu entends frapper à la porte. Tu as l'intention de revenir immédiatement, continuer tes ablutions. Mais tu es quelque peu retardé. Tu ouvres la porte et tu discutes un instant avec la personne qui vient d'arriver. À tel point que ton visage a séché. Dans ce cas-là, il ne t'est pas permis de continuer les ablutions, mais tu dois les recommencer à nouveau, dès le début. Par contre, si tu t'arrêtes un simple instant, que tu pars, que tu ouvres la porte et que tu reviens, dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, et tu peux continuer tes ablutions, incha'Allah ta'ala. Donc ce qui est visé par ce pilier, c'est de ne pas retarder le lavage d'un membre au point que le précédent est séché. Et la preuve nous démontrant qu'il est indispensable de faire les ablutions sans interruption, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme en prière alors qu'il avait un morceau de peau de la taille d'une pièce environ qui n'avait pas été atteint par l'eau lors de ses ablutions. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire les ablutions. Les gens de science ont dit, ceci est une preuve qu'il est obligatoire de faire les ablutions sans interruption. Car s'il était possible de les faire avec une interruption ou de retarder le lavage d'un membre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait simplement ordonné de laver cette partie de son pied qui n'avait pas été atteinte par l'eau. Or il lui a ordonné de refaire les ablutions. Ceci nous prouve qu'il est obligatoire de les faire sans interruption. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, et il est recommandé de laver son visage, ses mains et ses pieds à trois reprises. Il en est de même concernant le rinçage de la bouche et du nez. Et il n'est obligatoire de le faire qu'une seule fois. Comme on a vu, le pilier, c'est de laver ton visage, de rincer ta bouche et ton nez, de laver tes mains jusqu'aux coudes et de laver tes pieds jusqu'aux chevilles une seule fois. Mais il est recommandé, conformément à ce qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les laver à trois reprises, comme il est venu dans le hadith de Uthman que l'on a mentionné lors de l'explication des différents piliers. Et il nous a également rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala que Uthman a un jour fait les ablutions en disant, ne vous montrerai-je pas les ablutions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Puis il fit les ablutions en se lavant trois fois chaque membre, à l'exception de la tête qui, comme on va le voir, on ne passe les mains mouillées sur elle qu'une seule fois. Et il est même rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour fait ses ablutions en ne lavant ses membres qu'une seule fois. Et il est rapporté également, d'après Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour fait des ablutions en lavant chacun de ses membres à deux reprises. Et ce hadith est également rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Il est donc permis de faire tes ablutions en te lavant une fois, deux fois ou trois fois. Et il y a même un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nous mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour fait les ablutions en lavant ses membres d'un nombre de fois différent. Donc si tu laves tes mains à deux reprises, ton visage à trois reprises, tes pieds une seule fois, il n'y a pas de gêne en cela et les ablutions sont valides, insha'Allah ta'ala. Mais le mieux reste de laver chacun de tes membres à trois reprises. Puis le shir rahimahullah ta'ala de nous dire, quant au passage des mains mouillées sur la tête, il n'est pas recommandé de le faire plus d'une fois, comme le démontrent les hadiths authentiques. En effet, tous les hadiths qui nous sont rapportés concernant les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est mentionné dans ceci qu'il ne passait ses mains mouillées sur sa tête qu'une seule fois. Il n'est donc pas légiféré de le faire plus d'une fois. Parmi les choses légiférées dans les ablutions que l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas mentionné, il y a le fait de commencer par dire bismillah. Et ceci est recommandé selon l'avis de la majorité des savants. Et certains parmi les gens de science ont mentionné que ceci est obligatoire lorsque tu y penses. C'est-à-dire qu'il ne convient pas aux musulmans de délaisser la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant ses ablutions volontairement. Mais si un jour tu oublies que tu commences à faire les ablutions, alors, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala, et tes ablutions sont valides. Toutefois, tu ne dois pas le délaisser volontairement. Sinon, le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit dans une de ses fatawas que si tu le délaisses volontairement, le mieux est de refaire les ablutions, et ce, afin de sortir de la divergence. Quant à celui qui oublie, il n'y a pas de gêne, et ses ablutions sont valides, inshallah ta'ala. Également, parmi les choses recommandées lors des ablutions, il y a le fait de ne pas gaspiller l'eau. Nombre de personnes, lorsqu'ils font leurs ablutions, ils pensent que pour parfaire leur lavage, il faut utiliser beaucoup d'eau. Alors, il va ouvrir le robinet à grand flot et laisser l'eau couler tout le long qu'il fait ses ablutions. Et ceci est contraire à ce qui nous est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les gens de science ont mentionné qu'il est recommandé d'économiser l'eau lors des ablutions. Et ce qui est légiféré en ce qui concerne les ablutions est d'utiliser un moud. Un moud qui équivaut approximativement, ce n'est pas une valeur exacte, mais seulement approximative, à un peu plus d'un demi-litre d'eau. Et cela est suffisant pour les ablutions. Il n'y a pas besoin de plus. Et ne pense pas qu'en utilisant beaucoup d'eau, tu vas faire mieux tes ablutions. Au contraire, si tu souhaites parfaire tes ablutions, tu dois prendre pour modèle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui utilisait approximativement cette quantité d'eau pour ses ablutions. Également parmi les choses recommandées, il y a le fait d'utiliser le siwak. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, si je ne craignais pas d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais imposé le siwak à chaque prière et dans une autre version à chaque ablution. Donc ceci nous montre que le siwak est fortement recommandé lors des ablutions. Et à quel moment j'utilise le siwak lorsque je fais mes ablutions? Les gens de science ont mentionné que tu l'utilises au moment du rinçage de la bouche. C'est-à-dire qu'avant de rincer ta bouche, tu utilises le siwak, puis tu rinces ta bouche avec de l'eau. Et si tu le fais après les ablutions, alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Enfin, il est recommandé pour le musulman lorsqu'il fait ses ablutions de s'appliquer dans celle-ci. Et ce, afin d'en tirer profit. Car, comme vous le savez, il y a dans les ablutions de nombreux mérites. Imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abi Hurayra ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La parure du croyant atteindra ce qu'ont atteint les ablutions. » C'est-à-dire que les croyants et les croyantes, ils seront couverts d'une parure au paradis. Et cette parure, elle atteindra ce qu'ont atteint les ablutions. Donc ceci, cela doit t'encourager à accomplir parfaitement tes ablutions et à ne pas les négliger. Également, il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, toujours d'après Abi Hurayra ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah efface les péchés et vous élève en degré? Alors ils répondirent, bien sûr que oui, au messager d'Allah. Il commença alors par dire, accomplir parfaitement les ablutions lorsque cela est contraignant. D'après Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui parfait ses ablutions, c'est-à-dire celui qui accomplit ses ablutions de la manière complète, comme il se doit, comme elles sont légiférées, alors ses péchés sortiront de son corps jusqu'à sortir de sous ses ongles. Et dans un autre hadith, il nous dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions comme je viens de les faire, puis il a dit, celui qui fait ses ablutions de cette manière, ses péchés passés lui seront pardonnés. Il y a donc dans ces hadiths un encouragement à accomplir tes ablutions correctement, à t'appliquer lorsque tu fais ces ablutions et à ne pas les négliger. Et lorsque tu as terminé tes ablutions, il est recommandé de prononcer l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée et qui est de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. » J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Imam Muslim rahimahullah ta'ala nous rapporte d'après Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul parmi vous ne fait ses ablutions et s'applique afin de les faire parfaitement. C'est-à-dire qu'il s'applique dans ses ablutions, il ne les néglige pas, mais il les accomplit de la manière qui nous a été légiférée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nul parmi vous ne fait ses ablutions et s'applique afin de les faire parfaitement. Puis dit, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sans que les huit portes du paradis ne lui soient ouvertes et qu'il puisse y entrer par celle de son choix. Allahu Akbar. Médite sur ce mérite immense que tu peux obtenir seulement en t'appliquant dans tes ablutions et en prononçant cette invocation. Les huit portes du paradis te sont ouvertes, et tu peux y entrer par celles de ton choix. Il incombe donc à chacun d'entre nous de s'appliquer lorsque l'on accomplit nos ablutions. De ne pas penser que ceci est un acte sans importance. Mais rappelle-toi que lorsque tu fais cela, tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce lavage, il te permet de te rapprocher de ton Seigneur, d'obtenir son agrément, de te faire pardonner tes péchés, d'être élevé en degré, et de faire partie des gens du paradis, incha'Allah ta'ala. Enfin, parmi les choses légiférées après les ablutions, il y a également le fait d'accomplir deux unités de prière surérogatoires. Comme cela nous est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit à Bilal radiyallahu ta'ala anhu, « Oh Bilal, dis-moi, quelle est l'œuvre que tu accomplis en islam et en laquelle tu as le plus d'espoir, car j'ai écouté le son de tes pas devant moi au paradis. » Alors Bilal informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il accomplissait 2 unités de prière. Ceci nous prouve donc qu'il est recommandé pour les musulmans d'accomplir 2 unités de prière après les ablutions. Et si tu fais tes ablutions et que tu accomplis par exemple la prière de Dhuha, la prière de la matinée, ou alors que tu accomplis une ratiba, ou alors que tu fais tes ablutions, que tu rentres à la mosquée et que tu accomplis tahiyat al-masjid, la prière de salutation de la mosquée, alors ceci est suffisant, inshallah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le cours de demain ce qui annule les ablutions. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum.